Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, toute l'actualité musicale avec Steven Bellery. On entendra notamment Benabar vous présenter le premier extrait de son prochain album. Une idée de sortie si vous êtes parisien ou de passage dans la capitale. Le musée d'Orsay consacre une exposition à l'amitié entre le peintre Edgar Degas et l'écrivain Paul Valéry. Notre visite guidée à suivre en compagnie, bien entendu, de Monique Younes. Nous prendrons connaissance de nos express du jour préparés par Olivia Leray. Et puis à la télévision ce soir, deux épisodes inédits des aventures de Nicolas Le Floch sur France 2 à 21h. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
On va donc balayer l'actualité musicale à présent avec Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour Steven. À tous.
On commence par le retour de Benabar. Il vient de dévoiler le premier extrait de son prochain album.
3 ans et demi après inspiré de faits réels, Benabar publiera son 8e album studio au printemps prochain. Le chanteur change de logiciel et s'aventure sur un terrain plus pop que chanson réaliste. Un virage sonore bienvenu. Ah oui. Le tout premier extrait s'intitule « Feu de joie ». Benabar présente cette nouvelle chanson et évoque son envie de changement.
C'est une métaphore donc, qui consiste à dire tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous retient, ce qui nous écrase parfois, de brûler ça ensemble pour que ça devienne un feu de joie. C'est cramer un peu tout ce qui nous entravait, tout ce qui nous bloquait. Et justement, sortir quelque chose d'énergique et de réchauffant comme un feu.
Allume un feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux, brûlons tout ça.
Une rupture, peut-être, en tout cas une évolution, j'espère. C'était vraiment l'objectif d'avancer, peut-être surprendre un peu, même si c'est pas la volonté première. C'était surtout de pas se répéter, c'était ça l'objectif. Et dans le son aussi, d'avoir un son un peu nouveau qui attire un peu l'oreille. Et puis très égoïstement, pour moi aussi, je voulais entendre d'autres choses sur mes chansons. Moi, j'avais l'impression de refaire un premier album. Alors ça, on doit ça à Marc Domaille, avec qui j'ai fait l'album de Cocoon, qui a lui ce goût pour ce son très moderne, très pop.
Et ce sera...
Album au printemps et Benabar chantera du 7 au 10 novembre au Grand Rex avant de partir en tournée.
Autre nouveauté, Steven, le vainqueur de la 8e saison de Danse avec les stars dévoile un premier single.
Agustine Galiana, vue dans Clem, la série de TF1, est aussi chanteur. L'artiste d'origine espagnole prépare son 3e disque attendu au mois de mars. Un avant-goût vient d'être dévoilé, c'est numéro 1 sur iTunes depuis ce week-end. La balade élégante et émouvante s'appelle Carmina, c'est un hommage à sa grand-mère.
Si tu me voyais sur la scène, mais peut-être que tu me vois, toi qui t'es donné tant de peine pour que j'apprenne à être moi, que j'apprenne à être moi. Parfois tu cachais mes bêtises. T'es plus jeune qu'on le croit. Le bonheur était ta devise. Ma meilleure amie, c'était toi. Ma meilleure amie, c'était toi. Carmina, j'avais promis de ne pas pleurer. Pardon, je t'ai menti, je crois. Si tu arrêtes de me manquer, alors j'arrête d'avoir foi. J'avais promis d'être là. Dis-moi que l'absence est un jeu et que bientôt tu reviendras. Carmina.
Il s'appelle Agustine Galiana, nouveau disque dans 3 mois.
Serge Lama lui repart en tournée dès le 16 janvier.
Oui, et il vient tout juste de rééditer son dernier album très réussi, Où sont passés nos rêves, paru il y a un an. Il s'était entouré de 13 compositeurs différents comme Adamo, Bruel, Julien Clerc, Carla Bruni ou Maxime Le Forestier. Le disque ressort avec 5 chansons inédites, des titres empreints d'une certaine nostalgie. « J'en ai marre de toujours faire le beau quand j'ai mal dans mon cœur », dit-il dans une chanson ou encore dans une autre à propos de sa carrière. « 50 ans, c'est déjà beau ». L'occasion de demander à Serge Lama si le mot « retraite » était tabou dans son vocabulaire.
On a du mal à réaliser, même à 74 ans, on vit dans le présent, et j'ai du mal à réaliser que ça fait 50 ans que je fais de la chanson, qui ne redoute pas le combat de trop. Et depuis que j'ai recommencé à chanter, depuis que je suis reparti, là, à partir du moment où je tiens droit sur mes jambes, voilà, je passe pas ma vie assis, je touche du bois, mais je ne pense pas que ça soit le combat de trop. Mon corps me confine. J'ai toujours dit que c'est pas moi qui ferai mes adieux, c'est mon corps qui décidera pour moi. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai un corps quand même qui est très fragile. J'ai ma jambe gauche que je ne sens pas du tout et ma jambe droite traîne tout mon corps. Et il est possible que ma jambe droite un jour me demande pardon. J'essaie de faire comme si ça ne me tracassait pas.
Allez-vous me mettre KO ? Suis-je assez fort ? Suis-je assez beau ? Vais-je mériter vos bravos ? Ou est-ce le combat de trop ? Je n'ai plus tous les soirs, je m'habille et je lutte contre ces peurs qui m'élèvent plus.
Je débute l'un des inédits de la réédition « D'où sont passés nos rêves », dernier album de Serge Lama. Il repart sur les routes dans 3 semaines. Il s'installera 5 soirées à l'Olympia dès le 9 février.
On va terminer, Steven, avec les chiffres de vente de disques de Johnny Hallyday qui évidemment s'envolent.
Un phénomène classique hein, après la disparition d'un artiste, mais une fois de plus, Johnny prouve qu'il était hors norme. J'ai fait les calculs, il cumule plus de 420 000 ventes depuis sa mort. Il classe 79 de ses titres dans le top 200 des singles les plus vendus, 34 albums et compilations dans le top 200 du back catalogue. Vous savez, ce sont les disques qui sont parus il y a plus de 2 ans. Et l'album hommage cartonne également, près de 79 000 exemplaires vendus la semaine dernière, soit plus de 213 000 copies depuis la sortie, dont on a tous quelque chose de Johnny.
J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel.
Ce journal musical était bien entendu signé Steven Bellery. On passe à nos audiences du week-end, audiences télévisées avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Vendredi, victoire de TF1 et Koh-Lanta devant le Polar de la 2, mais la chaîne fédère moins de 5 millions de fidèles, il est temps de faire une pause. Samedi, c'est sans surprise le concours Miss France qui, sur TF1, toujours rafle tout depuis Châteauroux et devant le téléfilm de la 3. 7 400 000 curieux étaient fidèles au poste, pic à 8 800 000, c'est un peu plus que l'année dernière encore. Et puis hier, c'est le film Spice qui est largement en tête, sur TF1 encore. 5 900 000 téléspectateurs quasi. Et devant le Polar de la 3, une fois encore, 3,3 millions pour Vera. Et notez, il y a tout de même 2 chiffres à remarquer. 5 700 000 curieux étaient devant l'entretien déambulatoire d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse. Et 4 400 000 fanas devant TF1 pour la finale de handball féminin hier à 17h30 sur la Une. C'est décidément un bon week-end pour TF1.
Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec les Express d'Olivia Leray. Et puis Monique Younes nous emmènera en balade au musée d'Orsay. Je vous signale une information qui est tombée il y a quelques instants, que le procès en Belgique de Salah Abdeslam a donc été tout à fait officiellement reporté. C'est le tribunal qui l'annonce. Donc, procès reporté de Salah Abdeslam en Belgique.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Et à 9h12, nos Express du jour, préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour.
On commence par le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma.
Pour Star Wars, bien sûr. Oui. Les Derniers Jedi, le 8e opus de la saga, a rapporté 220 millions de dollars au box-office américain ce week-end pour ses 3 premiers jours en salle et 450 millions dans le monde entier. La meilleure performance est pour le moment toujours l'épisode précédent, Star Wars, Le Réveil de la Force.
La première série réalisée par Jean-Jacques Hano, projetée en avant-première mondiale.
Ce sera au Festival International Cannes le 7 avril prochain, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, adaptation du roman éponyme de Joël Dicker, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est le comédien Patrick Dempsey, Dr Mamour, dans Grey's Anatomy, qui va incarner le célèbre Harry Kéber, soupçonné du meurtre d'une jeune fille, dont le corps va être retrouvé sur sa propriété des années après sa disparition. La série sera diffusée sur TF1 en France et sur iPix aux États-Unis en 2018.
Alors, suspense, ce serait Noël avant l'heure. Le trio des inconnus va-t-il remonter sur scène ?
L'année prochaine, ça fera 30 ans que Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan ont fait leur début ensemble, avec des succès par la suite, on le sait, au cinéma, dans Les Trois Frères notamment. Eh bien, Didier Bourdon pense qu'ils pourraient s'éclater ensemble s'ils reprenaient du service. Pascal Légitimus le suivrait, Bernard Campan réfléchit. D'ici là, Didier Bourdon sera à l'affiche de Garde alternée avec Valérie Bonneton et Isabelle Carré dès mercredi prochain.
Maëva Cook a été élue Miss France depuis samedi.
Et devinez quoi ?
C'est le Nord !
C'est encore une fois une Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est la 3e fois en 4 ans. Maëva Cook a 23 ans, samedi soir, elle a croisé sur scène à Châteauroux le chanteur Ed Sheeran qui a ouvert et clos la soirée. Son troisième disque, Divide, paru au printemps, est l'album anglophone le plus vendu de l'année en France. L'occasion de l'interroger sur ce succès fulgurant qui va l'emmener jusqu'au Stade de France l'été prochain.
Je suis vraiment bien, dans un état de sérénité absolue. Ça a été ma plus grosse année en France. Avoir tout ce succès, ça me rend simplement heureux. Je dirais que c'est parce que ma musique est romantique, elle aide à tomber amoureux. C'est une belle récompense.
Vous chanterez au Stade de France les 6 et 7 juillet. Que préparez-vous ?
J'ai prévu de faire des chansons que les gens connaissent et les divertir, rien de plus. Je me sens vraiment bien sur une scène. Je suis un mec de scène. J'ai fait ça toute ma vie, c'est quelque chose que j'adore faire. Je serai seul avec ma guitare, personne s'en plaint, les gens achètent des billets, j'aurais tort d'arrêter.
Vous avez réenregistré votre chanson Perfect avec Beyoncé, c'est en train de devenir l'un des tubes de l'hiver. Comment elle est née ?
J'ai écrit Perfect en 2015. J'étais en studio pour enregistrer tout autre chose. J'avais terminé avec une heure d'avance. J'avais plein d'idées et je les ai couchées sur le papier. Et j'ai proposé à Beyoncé d'en faire un duo. On l'a réenregistré ensemble, c'était cool.
Ed Sheeran, interrogé pour RTL par Steven Bellery, avec la complicité évidemment de Laurent Marcy qui était à Châteauroux.
Merci Olivia. Monique Younes, quant à vous, eh bien vous nous emmenez ce matin au musée d'Orsay visiter l'exposition intitulée « Degas, danse, dessin ». Une exposition qui se penche aussi sur l'amitié du peintre Edgar Degas avec l'écrivain Paul Valéry.
Oui, parce que « Degas, danse, dessin », c'est le titre du livre écrit par Paul Valéry en 1937 et illustré par 26 gravures de Degas. Un livre qui est le fruit d'une grande amitié entre le poète Paul Valéry de 23 ans et le peintre de 37 ans son aîné. Ils se rencontrent en 1894. Se voit souvent au musée d'Orsay. Vous pourrez découvrir les manuscrits de ces échanges, souvent par pneumatique.
Ah, le pneumatique. Je vous attends donc demain jeudi, mon cher Valérie, à 7h12. Il y aura un peu de viande.
Et voilà, c'est autour d'un peu de viande, peut-être même d'une bonne bouteille de quelques pâtisseries, que les deux artistes devisent sur les grands sujets du jour, ce qui les préoccupe, l'art et la création. Paul Valéry va attendre 20 ans après la mort d'Edgar Degas pour publier son livre sur lui. Écoutez Leïla Jarboué, conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay.
C'est un objet qui a été fait avec Vollard, c'est quand même un des très grands marchands d'art et éditeurs d'art du début du XXe siècle, qui a connu Degas, exposé Degas et acheté Degas. Cet objet comporte 26 gravures magnifiques d'après des dessins de Degas, et c'est vraiment une redécouverte, puisque ce livre en tant qu'objet n'était pas du tout connu, finalement, et la bibliothèque du musée d'Orsay a pu l'acquérir cette année.
Alors avec son livre, Paul Valéry apporte un éclairage nouveau sur Degas. Il analyse le mouvement qui préside à ses dessins, décortique chaque détail, en fait ressortir les nuances et en tire les significations. Par exemple, les tutus des danseuses lui font penser à des méduses informes qui flottent dans l'air en apesanteur. Valéry ne voit pas en Degas le peintre des danseuses de l'opéra. Il considère que le motif chez lui n'est pas important. Ce qui compte, ce sont ce qu'il appelle les grimaces du corps.
Oui, alors les grimaces du corps, c'est une partie très importante de l'exposition parce qu'elle nous permet de montrer que cherche toujours à trouver la ligne la plus juste, la plus concise pour résumer une posture, une situation, un portrait. Et c'est pour ça qu'il va s'intéresser aux femmes s'essuyant sur une baignoire ou dans la blanchisseuse qui est en train de bâiller, qui s'étire. Ce geste du bâillement l'intéresse beaucoup parce que c'est le relâchement aussi de la tension. Donc c'est la combinaison entre le relâchement et la tension qu'il réussit à synthétiser par son graphisme, qu'il n'espère pas du tout dans le détail, dans le pittoresque. Ce qui l'intéresse, c'est le corps dans ses contorsions, dans ses caractéristiques.
Et Degas avait la réputation d'être un fou de dessin. Hein.
Mais oui, Degas dessinait inlassablement pour être le plus juste possible. Et en feuilletant les carnets de Degas à ses débuts, Ingres lui avait dit
« C'est bon, jeune homme, mais jamais d'après la nature, toujours d'après les souvenirs et les gravures des maîtres. »
Oui, et Ingres avait même ajouté « Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon à la main et la voir en dessinant. Même l'objet le plus familier devient tout autre. On s'aperçoit qu'on l'ignorait. » Et Degas a suivi la leçon. Il a commencé par copier les maîtres au Louvre et en voyage en Italie, il a copié les fresques des primitifs italiens, m'a appris Leïla Jarboué.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir la permanence des choses qu'il copie dans sa jeunesse, dans ses œuvres tardives. Par exemple, on va retrouver dans une peinture de repasseuse, donc vraiment une figure de la modernité, très réaliste. Finalement, on va trouver un geste qui évoque un esclave mourant de Michel-Ange. Et chez les danseuses, c'est pareil. On va trouver des mouvements, en fait, qu'il avait copié dans des œuvres de Cranach, par exemple. C'est finalement, il a emmagasiné tout ça et il réussit à synthétiser le classicisme et la modernité, justement, grâce à cette connaissance parfaite qu'il avait des œuvres anciennes.
Et Degas faisait partie de ces peintres qui gardaient tout, comme Picasso. Ce qui fait qu'à sa mort, en 1917, il a fallu organiser plusieurs ventes aux enchères pour liquider ses œuvres, m'a révélé Leïla Jarbouet.
Les dessins, on ne peut pas savoir combien il y en avait parce qu'ils ont été vendus aussi par lot. Aujourd'hui encore, passent sur le marché très très régulièrement des œuvres graphiques de Degas parce que c'était un infatigable et inlassable. C'était un perfectionniste. Donc pour lui, il n'avait jamais atteint la perfection. Donc il devait continuer à tel point qu'il va utiliser le calque très souvent qui lui permet de se calquer lui-même et d'apporter de légères modifications jusqu'à atteindre ce qu'il n'atteint jamais puisque pour lui, c'est jamais atteint. Donc c'est très intéressant. En même temps, ça peut aussi faire penser au cinéma. C'est-à-dire, il faut un très très grand nombre d'œuvres pour donner une image.
Bon, alors Degas n'a pas peint que des petites danseuses, il a peint des chevaux aussi.
Mais oui, il se rendait même sur les hippodromes pour les observer, mais pas pour peindre les courses, ça ne l'intéressait pas du tout. Non. Ce qu'il cherchait à capter, c'était le mouvement, comme chez les danseuses, ce que Paul Valéry a très bien compris quand il dit dans son livre
« Nul animal ne tient de l'étoile du corps de ballet comme un pur sang en parfait équilibre. »
Voilà, et Degas est le peintre de l'apesanteur. Ce qui lui plaît chez les danseuses, comme chez les purs sang, ce n'est pas que les premières interprètent bien Gisèle ou que les seconds remportent le derby. Ce dont il veut rendre compte, c'est de leur envol. Alors à votre tour, volez voir Degas au musée d'Orsay. Il est là jusqu'au 25 février 2018.
Monique Younes, dans un instant, la soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque et le retour de Nicolas Lefloc.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Notre soirée télévisée. Alors, nous commençons par un épisode de Nicolas Le Floch, ce soir à 20h55 sur France 2.
Oui, en 2015, France 2 décidait d'arrêter cette série inspirée de romans de Jean-François Parot, fiction selon elle pas assez fédératrice et pas assez contemporaine. Ben là, ah je oui, te crois, les deux derniers inédits tournés en 2014 et 2015,
vifs, hein,
oui, se passent sous Louis XVI. Ce soir, par exemple, on est en 1781, septième année du règne du bon roi, j'ai vérifié, hein, qui n'a toujours pas d'héritier. Il a beau adorer l'horlogerie, on sait qu'il n'a pas toujours les clés. On est au bord de la guerre avec les Anglais. Et pour convaincre l'Autriche de s'allier à lui, Louis XVI offre une flûte rarissime. Pas de bol, elle disparaît. Le policier séducteur Nicolas Le Floch doit la retrouver, aidé par son adjoint Bourdeau.
L'objet a été volé avant-hier soir dans les appartements du roi.
Une flûte piccolo en trois parties de chez Keller. Elle doit valoir son pesant d'or.
Bien plus que cela, l'alliance entre la France et l'Autriche contre l'Anglais tiendrait à cet instrument.
Rien que ça, une flûte. Le roi ne devrait-il pas mieux s'occuper de la sienne? Depuis combien de temps est-il marié? 7 ans.
Pierre.
7 ans et toujours pas d'enfant. J'en ai fait un par an pendant 5 ans.
Mais tout le monde n'est pas Bourdeau, voilà tout.
C'est pourtant pas si difficile.
On peut revenir à la flûte?
Voilà. Avec Martin Lamotte, Agnès Soral et Lucie Lucas de Kleb. Qu'est-ce qu'elle est méchante là-dedans? Le second inédit sera diffusé en 2018, si, évidemment, pas de flop pour Le Floch ce soir, bien sûr.
Bien entendu. Alors sur TF1, bon, on a un petit téléfilm de Noël.
Et j'en suis ravie. Et il est français, monsieur. Et charmant, et attachant, et pas inintéressant. Que demander de plus? Tout commence dans un cabinet parisien. Charlotte, Judith Bonnat, prépare Noël quand son patron l'appelle et surtout l'interpelle.
Charlotte, connaissez-vous le pays du Père Noël?
Le quoi?
Le pays du Père Noël, en Laponie. Eh bien justement, je vous y envoie, pour Jolibois, une usine française installée là-bas qui fabrique des jouets en bois. Alors endettement, surendettement et donc liquidation.
C'est-à-dire que j'ai des plans, et Noël c'est dans 4 jours, donc...
Vous serez revenu dans 2.
Charlotte, aux 3 derniers redressements là, vous avez été bien trop timorée.
Oui, je sais, mais j'ai étudié les comptes et je
crois
que...
Visiblement pas les nôtres, et vous nous faites perdre de l'argent.
Non, mais j'ai essayé...
Bon, Charlotte, vous voulez rester avec nous et passer avocate associée?
Oui, avocate, oui.
Alors remplissez les missions que je vous confie et arrêtez d'avoir des états d'âme. Montrez que vous êtes capable de liquider sa fissa, hein? Ou c'est votre licenciement qu'on négociera? Ça ira vite.
En Laponie, elle est attendue, enfin attendue au tournant surtout.
C'est moi que vous attendez.
C'est marrant, quand on m'a dit administratrice judiciaire, je m'attendais à une vieille coincée avec des bigoudis dans les cheveux.
C'est quoi cette accueil, hein? Excusez-moi, mais vous êtes qui?
Je travaille chez Jolibois.
Ah oui, c'est vrai, je comprends, ça doit pas être facile en ce moment. Et vous faites quoi chez Jolibois?
Patron.
Ah, c'est vous, Marcel Ducot?
Lui-même.
Eh bon, bah, vu l'état de vos bilans, je comprends pourquoi vous êtes désagréable. Attendez, vous faites quoi? Non. Bon, je suis venue pour voir votre usine, j'ai pas le temps de faire du chien de traîneau.
Ouais, mais on y va à l'usine.
Comment ça? Là-dedans?
Là-dedans, ouais.
Ok, d'accord, si j'ai pas le choix.
Ouais. Il y a même un allume-cigare si vous voulez charger votre téléphone.
Ah bon?
Non,
Il n'y a pas d'allume-cigare sur les trains, c'est une blague.
Voilà. Lui, c'est Omer Sisley, c'est tout beau, c'est tout bon, c'est à 21h sur TF1, ça prépare au sommeil, c'était pas tant.
Voilà. Et puis pour ceux qui aiment Matt Pokora, il faut en revanche choisir M6.
Et clairement, allergique, s'abstenir, 15 ans de carrière et 2 millions d'albums vendus, ça se fête, c'est dit la 6 qui a vu naître Matt Pokora en 2003 dans Popstar. David Ginola présente cette spéciale, même ceux qui n'aiment pas peuvent s'amuser par moments, par exemple en écoutant la rencontre entre Matt et Soprano dans un stade de foot, bien sûr.
On a commencé à parler ballon, foot et tout ça, et que j'ai vu que lui, il était plus bousillé que moi sur l'OM. Tu le vois s'énerver et tout.
Ah non, mais je te confirme, même sur un terrain de football, il est juste injouable. Il est mauvais perdant. Je vous le dis, il est terrible. Alors, Matt et Soprano, vous allez interpréter un titre de 2014. Voilà. C'est inspiré de ta vie.
Oui, de la vie de beaucoup de gens de ma génération. Le divorce, la séparation des parents. Les enfants n'ont pas à être au cœur des disputes. Tout ce qu'un enfant veut, c'est être bien avec son père quand il est avec lui, être bien avec sa mère quand il est avec elle. Voilà.
Petit à petit.
Mais mon moment préféré à moi, c'est évidemment My Way, chanté avec Florent Pagny et Patrick Fiori, tout est dit.
On fera semblant, comme d'habitude, on fera l'amour, comme d'habitude, on fera semblant, comme d'habitude.
Ça chante, hein?
Oui. C'est à 20h55 sur M6 ce soir.
A tout de suite pour accueillir notre camarade Julien Courbet. Ben voilà, c'est stupéfiant, nous sommes un peu en avance. Les bras m'en tombent et je vois que ceux de Julien aussi. Parce que...
Attendez, laissez-moi le temps de m'habiller.
Oui, vous sortez de votre lit?
Évidemment, normalement, c'est l'heure où je me réveille. Parce que je compte toujours le petit retard, vous savez.
J'entends bien, mais vous avez eu le temps de vous brosser les dents quand même.
Bien sûr, toujours. Voilà. J'ai une hygiène.
Une hygiène irréprochable.
Je vais monter alors.
Pardon?
Je vais monter alors.
Pourquoi? Vous ne mentiez pas habituellement parce que vous pensez que je puie de la gueule?
Non.
C'est ce que vous êtes en train de me dire?
Moi, je tiens à témoigner du fait que dans cette émission, il y a une hygiène physique et morale qui ne peut pas être contestée.
On a beaucoup de défauts à RTL, c'est vrai, mais par rapport aux autres radios, on est très très propre. Je tiens à le dire.
Voilà. Non, mais j'ai vérifié, ces crocs, ils sont très propres.
Ah, ben voilà.
Bon, eh bien, écoutez, encore une fois, on a offert un grand moment de radio aux auditeurs. Et vous voyez, je ne m'étonne pas quand je vois les chiffres d'audience. Quand je vois les moments qu'on vient de partager là, eh bien, c'est normal. C'est normal.
Il y
a du fond, il y a de l'humeur, il y a du rythme. C'est la radio de demain que nous sommes en train de dessiner. Merci.
On vous embrasse.
Demain, nous parlerons de mes pieds. Bonne journée.